Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
Et vous revenez d'abord sur les manifestations inédites qui se déroulent en Russie.
Oui, la presse internationale en a beaucoup parlé ce week-end. Dans l'extrême-orient russe, on assiste à donc cet étonnant mouvement anti-Kremlin qui pose plusieurs questions. Pour le quatrième week-end consécutif, plusieurs milliers de manifestants étaient réunis dans la ville de Khabarovsk et ils ont défilé en scandant des slogans contre le pouvoir, par exemple « Poutine, démission ». Ils protestent contre l'arrestation de leur gouverneur Sergueï Fourgal, qu'ils ont élu il y a 2 ans, contre le candidat du Kremlin, justement. Officiellement, Sergueï Fourgal a été interpellé pour des meurtres présumés qui remonteraient au milieu des années 2000, mais pour les habitants de la région, il s'agit d'un emprisonnement politique. Vladimir Poutine, selon eux, n'a simplement pas accepté cette défaite électorale pour son camp. Alors le magazine anglais New Statesman nous en parle un peu plus en détail. Fourgal, écrit-il, avait été autorisé à se présenter aux élections de 2018 dans une démonstration chorégraphiée de compétition, mais il était supposé n'avoir aucune chance de gagner. La réforme controversée des retraites cette année-là avait cependant galvanisé la colère du public et le vote Fourgal était apparu comme un vote de protestation contre les autorités. Voilà ce qui explique notamment pourquoi ensuite son arrestation a déclenché tant de colère. Des rassemblements de 35 000 à 50 000 personnes ont eu lieu ces précédents week-ends. La durée et l'ampleur de cette mobilisation en Russie sont inhabituelles. Les chaînes de télévision publiques ignorent ces protestations, mais des médias plus indépendants en parlent. Alors ce samedi, il y avait moins de monde, hein, c'est ce que nous dit The Moscow Times. Selon certains médias locaux, raconte-t-il, ce sont plus de 10 000 personnes qui se sont présentées au rassemblement de samedi. C'est donc effectivement un chiffre en baisse par rapport aux semaines précédentes. Mais il faut le dire, il s'agissait du premier week-end pluvieux depuis le début des manifestations.
Et comment réagit le pouvoir ?
En essayant plus ou moins de temporiser pour le moment, c'est ce que nous laisse entendre en substance The Moscow Times. Alors déjà le 20 juillet dernier, Moscou a nommé un gouverneur par intérim dans la région, issu du même parti que Sergueï Fourgal, mais ça n'a pas calmé la population. Le Kremlin, nous dit Moscow Times, semble adopter une approche attentiste. Pendant la marche de samedi, comme lors de tous les rassemblements jusqu'à présent, la police a escorté les marcheurs tout au long de leur boucle de 5 km autour de la ville, sans interférer. Quant au gouverneur par intérim, eh bien, il a quitté Khabarovsk pour le deuxième samedi consécutif afin de visiter une autre ville, signe peut-être d'une certaine nervosité. Alors évidemment, on s'en doute, hein, la patience de Vladimir Poutine a des limites, d'autant plus que d'autres villes commencent maintenant à vouloir suivre le mouvement. Cette semaine, 2 manifestants ont été condamnés à 1 semaine de prison, nous dit The Moscow Times. Selon l'ONG OVD Info, 55 personnes ont été arrêtées dans tout le pays. Ce mouvement est-il donc condamné à s'éteindre petit à petit et à finir par rendre les armes ? Peut-être pas, nous suggère le Financial Times. Il rappelle qu'en Russie, ce type de mouvement a pu déjà porter quelques fruits dans le passé. Par exemple, en Sibérie, rappelle-t-il, des protestations ont finalement forcé M. Poutine à renoncer au projet de construction d'une énorme cathédrale sur le site d'un parc populaire. Il y avait également eu des troubles à Moscou en faveur d'un journaliste détenu sur de fausses accusations qui ensuite avait été libéré. Le Financial Times parle ici d'Ivan Golunov, 36 ans, soupçonné de trafic de drogue et finalement libéré 4 jours après son arrestation. C'était il y a 1 an, en juin 2019.
Ilan Malka, des appels à la manifestation. Il y en a eu également ces derniers jours au Zimbabwe.
Oui, c'est l'opposition qui appelle à manifester contre le régime du président Emmerson Mnangagwa. Il s'agit de protester contre la corruption, contre la crise économique géante aussi qui frappe ce pays, situé, on le rappelle, en Afrique australe. Alors le site Bloomberg nous dresse le tableau, inflation de 737%, des pénuries de nourriture et de carburant, effondrement de la monnaie locale également. Le mouvement de manifestation qui était prévu il y a quelques jours, hein, c'était vendredi dernier, a été peu suivi. Les autorités ont averti que les forces de sécurité en alerte n'hésiteraient pas à intervenir. Et ça a été efficace, hein, ça a dissuadé les gens de sortir. Ce week-end, de nombreux commerces étaient encore fermés et peu de gens étaient dans les rues, hein, nous dit Bloomberg toujours. Certains manifestants ont été arrêtés, dont la romancière Titi Dangarembga, sélectionnée pour le Booker Prize en Angleterre, libérée sous caution. Elle doit comparaître le 17 septembre prochain. En tout cas, cette situation au Zimbabwe préoccupe la revue anglaise de géopolitique African Arguments. On est loin des promesses faites par Mnangagwa lors de son arrivée au pouvoir en novembre 2017, après le renversement de Robert Mugabe. À cette époque, écrit la revue, le nouveau président promettait une relance économique, des réformes démocratiques, veut renier bien avant que le coronavirus n'atteigne le Zimbabwe, mais la pandémie a aggravé la situation. Depuis le mois de mars, le parti au pouvoir a utilisé la Covid-19, écrit la revue, comme couverture pratique pour piller des fonds, pour réprimer la liberté de la presse, pour violer les droits de l'homme et pour arrêter des militants, fin de citation. C'est le cas par exemple du journaliste Opoel Chinono qui a révélé un scandale de corruption au Zimbabwe autour d'achats de matériel médical, arrêté le 20 juillet dernier, accusé d'incitation à participer à la violence publique. Il doit comparaître le 7 août, c'est vendredi prochain, et c'est ce que nous apprend cette fois-ci le quotidien en ligne sud-africain Daily Maverick.
Merci Ilan Malka, votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.